Histoire de peinture. Aujourd'hui, de la mémoire à la rhétorique.
Alors l'art et la mémoire, bon, c'est l'art de la Renaissance, la fin du Moyen-Âge et de la mémoire. Ça m'occupe depuis maintenant assez longtemps, et en fait j'ai découvert que ça existait à travers le livre de Francis Yates, le fameux livre de Francis Yates, The Art of Memory, l'art de la mémoire, que j'ai eu la chance de traduire ensuite en français chez Gallimard, l'art de la mémoire. Mais j'ai découvert en fait à Rome, quand j'étais à l'école française, dans sa version italienne, l'Arte e la Memoria. Et c'est un livre admirable, hein, dont je recommande la lecture à toute auditrice ou à tout auditeur, parce que ça se lit comme un roman. Et Francis Yates a réussi à reconstituer comment les orateurs, les religieux, les diplomates, les gens qui avaient des affaires à traiter, de quelque ordre que ce soit, les marchands, mais même les gens qui allaient au marché pour acheter leurs biens, se rappelaient ce qu'ils devaient acheter aujourd'hui. On fait une liste sur un papier, puis on regarde sa liste. À l'époque, le papier, l'encre, ça n'existait pas, encore moins à l'Antiquité. Et donc, comment faisaient les gens pour se rappeler ce qu'ils avaient à dire ou à faire dans un certain ordre? Et alors, elle a reconstitué cette histoire des artes memoriae, des arts de mémoire, depuis l'Antiquité, où là, existe, se constitue, se crée, jusque justement au XVIe, au XVIIe siècle, où il connaît un apogée au XVIe siècle, et puis disparaît, il est mis à mal, on va dire, par le cartésianisme et par la nouvelle ère scientifique et de pensée du XVIIe siècle. Alors là, en deux mots, hein, je résume très rapidement les principes de l'art de la mémoire, parce que c'est essentiel pour toute la suite. Il s'agit d'un art au départ destiné aux orateurs de l'Antiquité. Comment se rappeler un discours? Alors ça paraît très compliqué, parce que nous avons maintenant aujourd'hui du papier, mais c'est comme ça en tout cas que les gens faisaient. Donc bon, il faut essayer de le comprendre. Eh bien, la recommandation, c'est dans un texte qui était attribué à Cicéron au Moyen-Âge, donc il y avait un très grand prestige, c'est pour ça aussi qu'il est resté très vivant, consistait à imaginer un bâtiment. Alors, soit un bâtiment que vous connaissez, votre immeuble, votre appartement, le palais de justice, si vous êtes un avocat, que vous fréquentez souvent, ou d'imaginer un bâtiment à votre fantaisie, mais qui sera très précisément organisé. Et dans ce bâtiment, à des lieux très précis du parcours du bâtiment, dans des lieux, loci, hein, des lieux, vous placez des images, des imagines agentes, c'est-à-dire des images très frappantes, que vous inventez vous-même, de telle sorte à ce qu'elles vous rappellent ce que vous voulez dire. Alors l'exemple que donne, l'exemple classique donné par la Dérénium et bien sûr cité par Francis Yates, c'est un orateur doit défendre un client qui est accusé d'avoir empoisonné quelqu'un pour capter son héritage, mais il y a eu un témoin. Eh bien, l'image proposée pour se rappeler tout ça, qui est une situation de plaidoirie, c'est de mettre le mort dans un lit, mais encore vivant, l'accusé tenant une coupe dans la main droite et ayant à l'annulaire gauche une bague comportant deux testicules. Voilà. Et alors, à ce moment, vous avez tout. Parce que, oui, ben, la personne n'était pas morte, mais elle va mourir à cause de la coupe empoisonnée que lui a donné mon client. Et mon client, malheureusement, a un problème. Ce sont ses deux testicules. Qu'est-ce que ça veut dire, testicules? Je rappelle, ça veut dire petit témoin. Hein, testiculus, c'est un petit témoin. Donc, les testicules de la Dérénium, du texte cicéronien, donnés en toute innocence, hein, comme exemple d'image de mémoire au 1er siècle après Jésus-Christ ou avant Jésus-Christ, eh bien, ont parcouru tout le Moyen-Âge. Tout le moyen, testicule, pardon, de bélier. Oui, j'ai oublié, testicule de bélier, parce que c'est le premier argument de l'attaque. Donc, premier argument, c'est les testicules de bélier. Pourquoi de bélier? Parce que le bélier est le premier signe du zodiaque. Et donc, testicule de bélier égale premier argument. Et il met ce groupe, avec le lit, le mourant, il le met à l'entrée de son bâtiment. Donc, première chose qu'il faut exposer, c'est la cause elle-même. Et ensuite, il disposera, l'orateur, son raisonnement, une façon de discours conçu, inventé, construit, il disposera, alors, au fur et à mesure du parcours du bâtiment, en longueur ou en hauteur, à travers les étages, il disposera les arguments successifs de son discours, si bien que, où qu'il soit dans le bâtiment, il pourra revenir exactement au lieu où il avait mis l'image. Les images ne bougent pas. Lui parcourt le bâtiment, hein, l'orateur, mentalement, mais chaque image demeure toujours en son lieu. Et donc, il peut toujours retrouver n'importe quel argument à sa place dans le bâtiment. Alors, ça paraît bien compliqué aujourd'hui, encore une fois, parce qu'on a pris l'habitude d'écrire dans les notes du papier. Mais rappelez-vous que dans l'Antiquité, c'était sur les tablettes de cire qu'on écrivait, et que donc si l'orateur avait apporté son discours d'une heure et demie en tablette de cire, ben il avait besoin de plusieurs esclaves pour les porter. Alors que là, il n'avait qu'à concevoir son propre vêtement de mémoire en y mettant dans des lieux bien précis, des images bien précises, et parcourir ensuite ce bâtiment. Donc ça, si vous voulez, c'est le principe général dont les règles ne changent pas, sont des règles posées dès l'Antiquité, qui dure à travers le Moyen-Âge, encore au XVIe siècle. Dans son livre, Yeats donc reconstitue cette tradition, et elle donne à un certain moment des exemples d'images de l'art qui sont manifestement inspirées par des images de mémoire, par des systèmes d'images de mémoire. L'exemple le plus fort qu'elle donne, c'est à Florence, à Santa Maria Novella, l'église dominicaine, dans la salle du chapitre, mais qui aujourd'hui s'appelle la chapelle des Espagnols, il y a une grande fresque représentant le triomphe de Saint Thomas. Eh bien, Frances Yeats démontre, mais alors c'est imparable, démontre que toute cette fresque, un mur entier, est conçu comme un très vaste système de mémoire, inspiré par les images typiques de mémoire, je l'appellerai maintenant les images mnémoniques, qu'on trouve par ailleurs dans les traités de mémoire de l'ordre dominicain. Donc il n'y avait aucun doute, c'est-à-dire que le peintre peignant pour un couvent dominicain avait reçu des frères dominicains la consigne de peindre un grand art de la mémoire, de la gloire de Saint Thomas, c'est-à-dire des fondements de la gloire de Saint Thomas, à la fois ses vertus, ses sciences, etc. Et l'ensemble se lit comme une grande page de manuscrits mnémoniques dominicains. Je dois dire que quand j'ai lu ça, j'abordais l'histoire de l'art, j'avais quelques années juste derrière moi, j'étais très impressionné à nouveau par le monde qu'ouvrait le livre de Frances Yeats. Alors, j'ai demandé à le traduire, à Gallimard, j'ai eu la chance de pouvoir le traduire, et puis j'ai constaté que Frances Yeats, qui n'est pas une historienne de l'art, c'était une historienne de la culture, bien, en fait, elle avait ouvert une porte magnifique, parce que le constat que j'ai fait, c'est qu'il y avait pas mal d'images. En fait, si on commençait à regarder, à suivre cette piste, pas mal d'images, et de cycles même de peintures entiers qui étaient inspirés par des structures mnémoniques. Et là, il faut être très précis. La structure mnémonique, elle repose sur la juxtaposition de lieux, loci, dans un ordre déterminé, à l'intérieur desquels sont placés des imagines agentes, c'est-à-dire frappantes ou inhabituelles. Bien, alors là, il y a des images, par exemple, bien l'image typique d'une figure assise ou allongée sous une autre figure en trône. Alors vous aurez par exemple la philosophie en trône, et puis à ses pieds assis, vous aurez tel philosophe. Vous aurez la justice en trône, comme vertu cardinale, et à ses pieds, avachi, écrasé, l'injuste par excellence, etc. Voilà un système de mémoire où la figure principale trônante est la vertu ou bien l'art, et à ses pieds, vous avez son corollaire, parce que ça aide à penser, à se rappeler, corollaire positif, l'art libéral et son grand représentant, la musique et puis Tubal, l'inventeur de la musique, ou au contraire, la vertu et son grand opposant dans l'histoire. Donc c'est un système parfaitement cohérent, et c'est un système qui permet non seulement de se rappeler, mais qui représente tout un savoir, la somme d'un savoir. J'emploie le mot somme exprès, parce que c'est la somme théologique, c'est-à-dire que c'est une image, un type d'image qui s'accorde parfaitement avec la structure de pensée scolastique, et en fait de la Somme. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il n'y a pas seulement le triomphe de Saint Thomas pour les Dominicains, il y a le triomphe de Saint Augustin pour les Augustiniens, qui est conçu exactement de la même façon. Frances Yeats n'en parlait pas, je pense qu'elle ne le connaissait pas. En fait, ce sont des fresques qui se trouvent à la Pinacothèque de Ferrare. Et vous avez aussi la représentation, par l'art de la mémoire, d'un système du monde, d'une conception du monde. Les vertus, les arts libéraux, et finalement, les planètes, les jours de la semaine, tout peut s'organiser avec le principe et son représentant. Donc l'art de la mémoire était devenu, à la fin du Moyen-Âge, non seulement un outil pour se rappeler, mais un véritable système de représentation, et un système de pensée en particulier. On pensait le cosmos dans des structures de mémoire. Un des plus grands de ce point de vue-là, c'est Raymond Lulle, qui justement avait imaginé un système de mémoire entièrement par lettres et sans représentation, tellement universel, de roues qui tournaient les unes sur les autres, et tellement universel qu'il pensait pouvoir convertir les infidèles. Bon, c'est-à-dire que l'art de la mémoire donnait aussi, et ça sera très important pour la suite, pour le XVIe siècle, il donnait à celui qu'il possédait pleinement un pouvoir, non seulement par son savoir intériorisé, mais par le fait qu'il pouvait faire agir ce savoir à l'extérieur. Donc, je me suis persuadé que, Frances Yeats avait ouvert une porte magnifique, et progressivement, une hypothèse de travail est venue, c'est que la Renaissance, par rapport au Moyen-Âge, eh bien, la Renaissance c'était aussi, hein, pas seulement, je ne vais pas ramener toute la Renaissance à ce processus-là, parce qu'il y en a beaucoup d'autres de processus qui contribuent à faire la Renaissance par rapport au Moyen-Âge, mais que la Renaissance, eh bien, c'était aussi un passage de ce système mnémonique, juxtaposé, statique, etc., immuable, le système de la mémoire et de la somme théologique, c'est le passage, et dans le fond, d'un système correspondant à une conception close et hiérarchisée du cosmos, parce que c'est ça qui est à l'arrière-plan, hein, tous les systèmes d'équivalence, de nombres, etc. Donc le passage de ce système à un autre système, fondé, lui, non pas sur la juxtaposition de lieux contenant strictement une figure bien définie, mais au contraire sur l'unification globale du lieu de la représentation, hein, un seul lieu où les figures se déplacent. C'est le contraire complet de l'art de la mémoire. C'est-à-dire que Alberti, en 1435, il consacre plusieurs pages à la représentation du mouvement en peinture, ce qui est à l'opposé exact des principes de l'art de la mémoire. Donc passage d'un système clos, juxtaposé, hiérarchique, à l'idée d'un système fondé sur l'unification du lieu de la représentation, le mouvement des figures, et surtout une conception rhétorique de la peinture. Non plus la peinture servant à se rappeler quelque chose, mais la peinture servant à convaincre, à émouvoir son spectateur de ce que raconte la peinture. Un des grands exemples pour moi de ce point de vue-là est très simple, il mériterait un exemple plus complexe, mais on peut le dire très simplement, c'est la représentation de la dernière scène, hein, avec le Christ et les 12 apôtres. La tradition veut, au XIVe siècle, et encore au XVe siècle, que le Christ et 11 apôtres soient d'un côté de la table, et Judas isolé de l'autre côté de la table, tout seul. Bon, pour se rappeler Judas, non, on isole Judas, c'est un système, Judas est isolé, il se met à part, il va trahir, et donc il est isolé. C'est un système permettant de rappeler toute une série peut-être d'arguments sur Judas. Mais c'est une structure invraisemblable, non rhétorique. Parce que si vraiment Jésus disait aux apôtres, l'un de vous va me trahir, hein, et qu'il y en ait 11 d'un côté et un seul de l'autre, et qu'aucun des 11 ne comprenne que c'est le 12e qui va trahir, alors ils sont idiots, il n'y a rien à faire. Or, c'est pas ce que cherche à dire la peinture. Donc, une chose est sûre, c'est que chaque fois qu'il y a Judas de l'autre côté de la table, la peinture ne cherche pas à être vraisemblable, elle ne cherche pas à convaincre de ce qui s'est passé, de la vérité de ce qui est passé dans l'histoire. Quel est un des tout premiers à mettre Judas avec les autres, hein, donc à le confondre dans la masse, ben c'est bien sûr Léonard de Vinci. Léonard de Vinci qui remet Judas de l'autre côté, et à ce moment-là, vous me dites, mais où est Judas? Vous-même, vous demandez, où est Judas? Bon, voilà, le principe sur le passage, il est là. Et bien sûr, chez Léonard de Vinci, le mouvement s'empare de tout. Les apôtres s'agitent, se demandent, etc. On est passé d'un système mnémonique, juxtaposé, clos, etc., répétitif, on va dire, à un système rhétorique de persuasion du spectateur. Alors, cette idée-là, le passage d'un système à un autre, à travers, pour le dire en un mot, de la mémoire à la rhétorique, eh bien, ça s'est révélé vraiment tout à fait fructueux. Parce que, d'abord, on comprend mieux, si on regarde la peinture du XIVe et XVe siècle de ce point de vue, on comprend mieux l'ancien système. Le système qui n'est pas rhétorique. On le comprend mieux, parce que si vous lisez, par exemple, des textes sur Duccio, le grand peintre siennois du début du XIVe siècle, et la fameuse Maesta de Duccio, vous voyez d'excellents spécialistes, des gens très, très sérieux, très savants, qui aiment beaucoup Duccio, qui, à propos des structures spatiales de Duccio, parlent d'aberration, de naïveté, de contradiction. Mais non, ils ne comprennent pas. C'est qu'ils raisonnent sur Duccio à partir du système nouveau, à partir du système d'Alberti, de l'unification de l'espace, et donc du principe qu'il ne peut pas y avoir deux fois la même personne dans la même pièce, ou que, comment dire, une colonne ne peut pas séparer elle toute seule l'intérieur et l'extérieur, etc. Bon. Alors que chez Duccio, c'est pas du tout la même chose. Chez Duccio, c'est un système de lieux, d'une logique de lieux dans lesquels ou sur lesquels sont inscrits des figures. Et tout ce que, je dois dire, les spécialistes de Duccio appellent des contradictions, des imperfections, des bons, eh bien, non, c'est que ce n'est pas ça du tout, c'est simplement un autre système, une autre manière de concevoir l'espace de la représentation à partir d'une logique des lieux contenant des figures. Donc d'abord, on comprend mieux ce qui se passait auparavant, comment penser la peinture ou la représentation picturale quelqu'un comme Duccio. Et puis surtout, l'idée que la Renaissance est le passage d'un système à un autre, eh bien, permet justement d'être très attentif et du coup de voir autrement les mélanges, les continuités, les ruptures dans les systèmes de représentation entre le XIVe et le XVe siècle. Un exemple, il est très intéressant de suivre de ce point de vue-là la transformation du polyptyque, hein, qui s'invente au début du XIVe siècle et qui est exactement un bâtiment de mémoire, hein, avec des lieux bien précis, les figures dans le lieu, l'ordre de parcours très précis du lieu, avec le fait que si, par exemple, une annonciation est traitée en bas du polyptyque, elle aura un traitement différent de celui qu'elle aura si elle est traitée en haut du polyptyque, parce que la nature du lieu influe sur la nature de l'image. Bon, et le polyptyque est magnifique à interpréter comme bâtiment de mémoire que le regard parcourt avec un ordre vertical et un ordre horizontal. Bon, bien, comment passe-t-on de ce polyptyque comme vraiment système de mémoire de la peinture d'hôtel, comment passe-t-on au tableau d'hôtel? C'est-à-dire au fait qu'il n'y a plus qu'une seule image qui est située au-dessus de l'autel, eh bien, c'est le passage, et qui est une image rhétorique, un des tout premiers, par exemple, c'est le baptême de Jésus, de Verrocchio, Léonard de Vinci et Botticelli. Eh bien, le passage d'un système à un autre permet de voir comment, du polyptique au tableau d'autel, il y a toute une série de transformations progressives qui fait que l'ancien système résiste, qu'il se réintroduit alors que le tableau d'autel est en train de faire pression, mais que l'ancien système est quand même là encore à travailler, qui donne des hypothèses de travail, des expérimentations extraordinaires qui n'auront pas d'avenir. Et que, on va dire, en un siècle, eh bien, on est vraiment passé du système mnémotechnique ou mnémonique, je préfère, mémorial, on va dire, du polyptique placé sur l'autel, on est passé au tableau d'autel qui persuade et émeut son spectateur, qui demeure toujours infidèle. Mais la force du système mnémonique est telle que le polyptique demeure efficace. Hein. Il y a encore de très beaux polyptiques au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Simplement, eux-mêmes, à ce moment-là, sont conquis par la rhétorique. La rhétorique l'aura emporté. Et c'est une hypothèse tellement fructueuse que j'en ai toujours pas fini avec. Hein. Je continue à être là-dedans, de manière peut-être un peu obsessionnelle, mais c'est tellement fructueux comme résultat que je ne regrette pas mon obsession.
Daniel Arras. Réalisation Arthur Gerbeau, Claire Levasseur, Jean-Claude Loiseau.